Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc, avant de passer au bilan aujourd'hui, je veux revenir de façon générale sur les consignes, les nombreuses consignes, les nombreuses mesures d'urgence qu'on a mises en place dans les dernières semaines pour lutter contre la pandémie. Je veux rappeler qu'on est bien conscient que c'est difficile en ce moment pour beaucoup de personnes de respecter l'application de ces mesures d'urgence de santé publique qu'on a mises en place. Mais rappelez-vous qu'en ce moment, on est en train de faire tout ce qu'il faut pour sauver des vies. Gardez toujours à l'esprit qu'en ce moment, on poursuit un seul et même objectif, c'est de sauver des vies. Non seulement au Québec, on est un des endroits où on teste le plus, mais on est aussi un des meilleurs dans le respect des règles de distanciation sociale. Et ce sont là deux éléments clés pour pouvoir remporter cette bataille qu'on mène contre la COVID-19 en ce moment. Donc, il ne faut surtout pas relâcher nos efforts, même quand c'est difficile. Rappelez-vous qu'on fait exactement ce qu'il faut en ce moment et qu'on va atteindre ensemble cet objectif de venir à bout de ce virus. Je vais donc passer au bilan du jour. Donc, on a aujourd'hui, malheureusement, 14 nouveaux décès pour un total de 75 décès. Alors, bien sûr, je veux offrir au nom de tout notre gouvernement mes condoléances à tous les proches, à tout l'entourage, tous les parents de ces personnes décédées. On a aujourd'hui 6997 cas confirmés, une augmentation de 896 par rapport à hier. On a 478 personnes hospitalisées, une augmentation de 49. On a 130 personnes aux soins intensifs, une augmentation de 8. On a aujourd'hui des chiffres, somme toute, encourageants du côté des hospitalisations, quand on regarde le ratio par rapport au nombre de cas. Donc, c'est encourageant de ce point de vue-là, mais c'est toujours très difficile d'entendre quotidiennement ces statistiques-là, parce que derrière les chiffres, il y a des êtres humains. Il y a des gens qui souffrent, il y a des familles qui s'inquiètent. Donc, c'est difficile de dresser ces bilans au jour le jour. Il y a aussi nos anges gardiens qui sont au front, qui sont là pour nous soigner, pour soigner les personnes qui sont malades. Donc, ce qu'on peut faire de mieux pour nos anges gardiens et pour tout le monde, pour les uns les autres, c'est de s'assurer que tout le monde, absolument tout le monde, respecte à la lettre les consignes de santé publique. Et je rappelle d'ailleurs que ces consignes de la santé publique, elles ont force de loi et qu'on a des forces policières déployées partout sur le terrain, sur le territoire québécois, pour les faire appliquer. C'est pas le temps en ce moment d'être égoïste, c'est pas le temps de penser à sa petite personne, c'est pas le temps de vouloir défier les lois, les directives de santé publique, c'est le temps de les respecter. Et je l'ai dit, on a les forces policières qui sont présente un petit peu partout parce que on peut plus accepter à ce stade-ci, on peut pas l'accepter depuis le début d'ailleurs, mais encore moins à ce stade-ci avec le nombre de cas qui augmente, le nombre de décès, on peut plus accepter que des individus, des personnes, des groupes de personnes isolées continuent de miner les efforts collectifs. Donc, et nos policiers aussi, tout comme nos anges gardiens du réseau de la santé, sont eux aussi au front quotidiennement pour assurer la sécurité de tout le monde. Donc, facilitons-leur la tâche. Évitons les rassemblements. On ne veut plus voir de rassemblements ni extérieurs ni intérieurs. On ne veut plus voir de commerces et de services non essentiels qui continuent de fonctionner. Donc, si vous êtes témoin de ces situations-là, des infractions aux directives de santé publique, dénoncez-les, signalez-les à vos forces de l'ordre. Je l'ai déjà dit, on ne veut pas tomber dans un climat de sursuspicion non plus. On ne veut pas sombrer dans la paranoïa collective. Mais il faut rester vigilant. Il faut surtout s'assurer que personne ne met délibérément en danger la vie des autres personnes. Je veux aussi demander aux Québécois d'être respectueux envers nos policiers, en étant honnêtes sur le fait qu'ils peuvent présenter des symptômes de la COVID-19. Donc, si vous présentez des symptômes, et bien sûr, si vous avez un test positif de COVID-19, donc si vous êtes contaminé par le virus, soyez honnête, dites-le aux policiers avant qu'il y ait interaction. Et même chose, évidemment, pour notre personnel du réseau de la santé. Si vous présentez des symptômes, soyez honnête. Il n'y a aucune honte à avoir des symptômes du COVID-19. Bien au contraire, ce qui serait honteux, c'est de vouloir le cacher, de le dissimuler sciemment et d'ainsi mettre en péril la santé, la sécurité, notamment des gens du réseau de la santé et de nos forces policières et de tout le monde d'ailleurs. Donc, soyez honnêtes, soyez transparents. J'en appelle au sens des responsabilités et au civisme de tous les Québécois sur cette franchise, cette transparence qu'on doit avoir sur son propre État. L'autre consigne qui est critique en ce moment, c'est toute la question de l'interdiction des déplacements non essentiels entre les régions, entre les villes. Vous savez, on a déjà décrété ou du moins fixé certains territoires, certains endroits au Québec où les déplacements non essentiels sont interdits. On veut éviter la propagation du virus d'un endroit à l'autre. On veut aussi protéger nos communautés plus vulnérables, si bien qu'aujourd'hui, j'annonce qu'on ajoute deux nouveaux territoires où seront interdits les déplacements jugés non essentiels. J'annonce le territoire de Charlevoix et la ville de Rouyn-Noranda. Donc, à partir de 16 heures aujourd'hui, on va ajouter des points de contrôle policiers à ces endroits pour contrôler, limiter les allées et venues sur ces deux nouveaux territoires. L'objectif étant, bien sûr, toujours de renforcer l'application des directives de santé publique en évitant tout déplacement non essentiel autour et dans ces régions. Ça s'ajoute à la liste qui a déjà été rendue publique depuis une semaine. Donc, je vais ajouter un petit mot sur les inondations. Pendant que c'est moi qui suis ici aujourd'hui. Donc, peut-être faire le point sur la situation des inondations. Vous savez que chaque printemps, c'est un défi qui nous guette, la gestion des inondations. Donc, simplement assurer tout le monde que tout est sous contrôle pour l'instant. La très, très grande majorité des cours d'eau, la quasi-totalité des cours d'eau est sous contrôle pour l'instant. Il y a eu des incidents en Beauce là, depuis hier. Il y a eu certains débordements, certaines évacuations préventives, certaines inondations mineures aussi. Mais tout se passe très bien. Tout est sous contrôle. Je l'avais dit, j'ai fait une tournée, moi, en prévision d'une éventuelle crue printanière pour m'assurer que toutes les municipalités sont conscientes des règles à respecter cette année, entre autres sur l'hébergement, sur la gestion des bénévoles, des services aux sinistrés, tout ça. Il faut éviter les rassemblements. Donc, tout le monde est bien conscient. Je veux en profiter pour les remercier d'ailleurs, toutes les municipalités et toutes les MRC qui collaborent très bien. Donc, on est prêt. S'il y a lieu et si on doit intervenir, nous serons prêts. Je veux en assurer tout le monde et je veux passer le message aussi aux citoyens que là aussi, comme ailleurs, il faut respecter les directives de santé publique. Et je voyais tout à l'heure un gazouillis de la Sûreté du Québec qui faisait état de rassemblements le long de la rivière Chaudière. Donc, dans les inondations, comme dans tout le reste, il faut éviter de se rassembler par curiosité pour aller voir les cours d'eau qui seraient sous surveillance ou aller voir ce qui se passe s'il y a des inondations. Donc, évitez de vous masser dans ce type d'incident par curiosité. Je vais avoir des remerciements un petit peu particuliers aujourd'hui pour les remerciements du jour, des remerciements même que je qualifierais de mignons, parce qu'aujourd'hui, je veux remercier nos enfants. On parle souvent que ça peut être difficile pour les parents d'être à la maison, entre autres de faire du télétravail et tout ça en ayant nos enfants à la maison, mais c'est difficile pour nos enfants aussi, parce qu'eux aussi, leur vie a été chamboulée depuis quelques semaines. Ils sont privés de leurs amis, ils sont privés de la garderie, privés de l'école, ne peuvent pas toujours jouer dehors. Donc, je veux remercier nos enfants d'être solidaires de leurs parents, continuer à être forts, continuer à être souriants, continuer à nous aider, et on va passer tous ensemble au travers. Donc, je vais terminer avec les trois consignes qu'on veut toujours rappeler. On les rappelle toujours, mais c'est parce que peut-être qu'il y en a encore qui ne les suivent pas ou qui ne les connaissent pas. Donc, première consigne très importante, on évite de sortir de chez soi si on n'a pas de raison essentielle de le faire. Si on doit sortir de chez soi, on s'assure de rester à 2 mètres des autres personnes. Et en tout temps, en particulier quand on arrive de l'extérieur, on doit se laver les mains avec du savon. C'est très, très important. Donc, je remercie encore tous les Québécois parce que malgré ces rappels de consignes qu'on fait pour les quelques récalcitrants qui subsistent, la très grande majorité suivent les consignes depuis maintenant des semaines. On sait que c'est difficile, donc je veux vous remercier. Et surtout, rappelez-vous qu'on est tous ensemble dans ce combat et que c'est uniquement en étant unis et solidaires, tous ensemble, en regardant tous vers le même objectif de sauver des vies, qu'on va passer à travers.
Pour la ministre de la Santé, Danielle McCann, j'aimerais savoir où on en est exactement sur les réserves de propofol et d'autres médicaments essentiels en milieu de soins intensifs, car il y a des personnes directement impliquées dans le milieu de la santé qui disent que manifestement ces réserves-là sont limitées, qu'on en a pour une semaine, mais on n'est pas capable de s'avancer pour plus. On en est où?
Bon, moi, ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, il faut être très, très rigoureux dans l'usage hein, de ces médicaments, dont le propofol, et on est en train de revoir, de regarder des substituts, même des anciens médicaments qu'on utilisait là, dans le passé, pour venir aider. Alors, il y a tout un travail qui se fait actuellement à ce niveau-là. On a aussi décidé, au niveau de l'approvisionnement des médicaments en général, de le centraliser au ministère. On a fait ça, comme vous le savez, pour les équipements de protection. Avant, c'était les établissements qui s'approvisionnaient directement avec les fournisseurs. On a dû, évidemment, dans une situation d'urgence sanitaire, c'est ce qu'on fait pour vraiment avoir le plus de rigueur, mais aussi d'équité possible. Et on fait la même chose maintenant pour les médicaments. Alors, on a un travail qui se fait actuellement et on va regarder là, des médicaments qui peuvent être utilisés en substitution de certains médicaments comme le propofol.
Je sais pas comprendre. Dois-je comprendre qu'il n'y a pas de précision exactement sur l'état des réserves et tout ça, là? Ou?
Je vais vous la donner aujourd'hui parce que évidemment on est en train de faire ces travaux et on pourra évidemment dans le futur vous en donner plus de spécificités là-dessus sur le délai. Mais comme je vous dis, on est en train d'examiner d'autres médicaments. Alors ça pourrait nous donner évidemment beaucoup plus de temps devant nous. Et on regarde également toute la situation avec nos fournisseurs. On n'a pas terminé notre travail là-dessus. Alors, au moment où on aura davantage une idée, on pourra vous revenir là-dessus parce qu'il y a probablement d'autres possibilités avec nos fournisseurs.
Qui sont les décès, Dr. Arruda? Les nouveaux décès qui s'ajoutent?
Les nouveaux décès? Bien, il y a eu 14 nouveaux décès qui sont tous dans la catégorie d'âge qu'on vous a dit antérieurement, puis sont distribués un peu au Québec.
Ah, c'est Alain Laforêt, TVA.
Mais si vous me permettez, il y a une question qui m'a été adressée. J'aurais peut-être une chose à vous dire aujourd'hui. Là, en fonction de l'analyse qu'on a faite quotidiennement avec les directions de santé publique, vous savez qu'on avait identifié des zones plus chaudes, hein, des zones plus rouges. Maintenant, il y a de la transmission communautaire qui s'installe un peu partout au Québec, particulièrement dans les villes, je vous dirais, là, plus populeuses. De telle sorte que maintenant, aujourd'hui, j'annonce que nous recommandons de considérer l'ensemble du Québec comme ayant de la transmission communautaire. Ce que ça veut dire, c'est qu'actuellement, il y a encore des gens qui pourraient réintroduire par le voyage, mais le facteur principal d'acquisition de la maladie est au Québec actuellement. C'est sûr qu'il y a des zones, puis ça ne veut pas dire qu'on va enlever les contrôles routiers pour protéger les zones encore moins atteintes, mais actuellement, on considère qu'une personne qui a des symptômes qui sont compatibles avec le coronavirus sont potentiellement des coronavirus à un taux assez élevé. De telle sorte qu'on va demander à ces personnes-là, quand ils vont être vus à l'hôpital, même s'ils n'ont pas voyagé, même s'ils ne proviennent pas d'une zone chaude, s'ils ont un syndrome respiratoire, de porter un masque, et les intervenants de la santé vont aussi porter un masque pour ces personnes-là. Donc, ça a surtout une implication, je vous dirais, pour le niveau de gestion des individus qui viennent consulter au système de santé. Puis ça nous réimporte de dire l'importance de pratiquer les mesures de distanciation sociale qu'on vous a déjà bien dit et répété à plusieurs fois. Cette décision-là, c'est clair qu'il y a des différences de dynamique entre les régions. Là, il y a des sous-secteurs plus chauds que d'autres. Mais on arrive à un stade actuellement où plutôt que d'aller à la pièce puis d'ajouter une région à la fois à chaque jour ou des sous-sections, on a considéré qu'il est le temps de recommander la transmission communautaire qui est soutenue à certains endroits, moins soutenue ailleurs, mais de toute façon, on va prendre ces mesures-là. Je tiens à vous dire qu'il est excessivement important de ne pas lâcher. Il ne faudrait pas que tous les efforts qu'on a faits jusqu'à maintenant, qui portent leurs fruits, soient anéantis par un relâchement actuellement. C'est encore le temps. Les équipes de santé publique vont continuer à faire des investigations sur les cas et sur les contacts. Il faut appliquer les mesures. Les gens dans le système de soins et ceux qui donnent des services essentiels avec proche des personnes vont devoir se protéger un peu plus. Donc, c'est ça qui est la consigne. C'est surtout pour que vous renforcez, mais c'est surtout à cause de la situation épidémiologique. Là, on est rendu à ce stade-là. Quand on était après la semaine de relâche, c'était surtout des voyageurs. Hein? 90% des gens qui avaient la maladie provenaient de voyage. Ça démontre qu'actuellement, le bombardement par les voyageurs est en diminution. Ça veut dire que les gens qui reviennent quand même doivent rester en quarantaine, mais on doit considérer toute personne qu'on ne connaît pas, puis c'est pas pour donner de la méfiance, mais comme étant potentiellement porteur, de telle sorte qu'on ne prend pas de chance. Et à ce moment-là, je vous demande à tous de respecter l'étiquette respiratoire, de faire les mesures d'hygiène qu'on répète continuellement. Et puis, si vous avez des symptômes, aussi, de ne pas mentir. Il y a des gens qui, pour des raisons X, Y, Z, veulent aller à un certain endroit ou veulent rentrer dans tel établissement ou pas. Si vous avez des symptômes compatibles avec un rhume ou une grippe, de la toux, de la fièvre, c'est très important d'avertir votre soignant ou la personne qui va vous recevoir parce que, un, c'est pour vous traiter, vous, et deux, c'est pour ne pas contaminer notre personnel puis qu'on se retrouve avec des problèmes de pénurie de personnel. Il y a des gens qui ont menti pour toutes sortes de raisons, qui étaient COVID-19 positifs, qui se sont présentés en milieu hospitalier pour des raisons X, Y, Z. Donc, j'insiste, c'est très important. Ce n'est qu'ensemble qu'on va gagner la bataille. C'est long, c'est difficile. Tout le monde est un peu, je vous dirais, tanné de cette situation-là, si on peut le dire en québécois. Mais je pense qu'on passe dans une autre phase, mais on va la gagner si tout le monde fait ses efforts. Merci.
Monsieur Laforêt de TVA.
Docteur Arruda, pour faire un peu de millage là-dessus, là, vous avez annoncé aujourd'hui, bonjour à tous, vous annoncez aujourd'hui 6997 cas, 896 de plus, une grosse augmentation. Juste pour que les gens comprennent bien avec le message de prudence que vous venez de donner, quelle est la tranche d'âge qui est principalement affectée? Est-ce que ce sont principalement des hommes, des femmes? Parce que oui, ceux qui nécessitent des soins d'urgence, on parle plus des personnes âgées, mais au niveau de la contamination, là, c'est quoi le portrait que vous pouvez nous donner aujourd'hui?
Écoutez, si vous me permettez, je vais juste sortir mes choses. Il faut faire une distinction entre la maladie puis ceux qui décèdent puis vont aux soins intensifs. Hein? Vous savez, il y a plein de gens, la majorité des gens, même au-dessus de 80%, même ici au Québec, c'est plus que ça, vont faire la maladie, vont rester à la maison, n'auront pas nécessairement besoin de soins, vont passer plus ou moins un mauvais quart d'heure, puis vont se rétablir. Et donc, pour ce qui est des répartitions à travers des groupes d'âge, en fin de compte, il y en a, surtout, c'est des jeunes adultes, en termes de max, 40-49 ans. Et par contre, pour ce qui est des décès et des hospitalisations, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un shift vers les personnes plus âgées. C'est ça, en gros, vous pouvez voir sur le site de l'Institut national de santé publique les détails en pourcentage. Mais dans le fond, si j'essaie de résumer pour la population, les gens qui meurent actuellement du COVID-19 sont surtout des personnes en haut de 70 ans, surtout entre 80 puis 89 ans, puis en haut de 90 aussi. Il y a quelques cas, il y a eu un cas de décès, je l'ai dit, dans la tranche d'âge 30-39, d'autres dans 50-59, mais c'est véritablement une maladie qui tue particulièrement les gens les plus âgés, les gens qui ont des maladies chroniques, pour le moment au Québec, et c'est le profil qu'on s'attendait. Et c'est pour ça qu'on a mis tellement d'emphase sur le contrôle de la non-exposition des personnes âgées qui sont regroupées dans résidences pour personnes âgées, etc.
Madame la vice-première ministre, on vient de passer à une étape supérieure avec la transmission communautaire, donc il n'y a plus de régions qui ne sont pas à risque. Vous avez lancé un avis pour, entre autres, dire la vérité aux policiers. À Saint-Jean-sur-Richelieu, la Ville a décidé d'appliquer des contraventions, là, 200 $, 500 $ et 1000 $. Là, on ne fait pas le processus devant le procureur de la Couronne. Est-ce que la Sûreté du Québec et les autres corps de police devraient faire la même chose? Fini les avertissements, on sévit.
Bien, il y a déjà des constats qui s'émettent dans les derniers jours, là, à la suite du constat d'une infraction. Il y a des rapports d'infractions généraux qui sont remis par les différents corps de police quand ils constatent qu'effectivement, il y a des gens qui ne se conforment toujours pas aux directives, notamment par des rassemblements, notamment par des commerces qui sont encore ouverts et qui ne devraient pas l'être. La situation dont vous me parlez à Saint-Jean-sur-Richelieu, j'en ai eu connaissance, effectivement, on est encore à faire les vérifications parce que c'est tout récent que cette situation-là a été diffusée dans les médias. Mais de prime abord, avec les vérifications, les premières vérifications que j'ai pu faire avant de venir vous parler aujourd'hui, il semble effectivement là qu'ils ont mis en place leur propre règlement municipal ou en tout cas qu'ils ont mis en place leurs propres outils à travers des règlements municipaux pour pouvoir agir doublement. Et donc, si c'est bien ce que je pense que c'est, puis encore là, il y a d'autres vérifications à faire, mais je pense que ça démontre le sérieux de la situation. Une municipalité qui se donne des outils supplémentaires pour contenir la propagation du virus, pour sévir contre ceux qui ne suivent toujours pas les directives de santé publique, ça démontre le sérieux de la situation. Et toutes les municipalités, toutes les MRC, toutes les régions, tous les citoyens, tout le monde en ce moment doit prendre tous les moyens à la hauteur de sa situation pour s'assurer du respect collectif des règles. Saint-Jean-Richelieu le fait de cette façon-là. Et je pense que, toujours sous réserve des vérifications à venir, c'est une bonne idée.
Patrick Bellerose du Journal de Québec.
Oui, bonjour à tous. La question pour le Dr Arruda, ça fait déjà 12 jours qu'on a mis le Québec sur pause. Pourtant, le nombre de cas quotidiens continue d'augmenter. On est au double du 23 mars quand on décide de mettre le Québec sur pause. Est-ce que, en fait, les mesures donnent les résultats escomptés? Et est-ce que le bilan à mi-parcours vous pousse à penser qu'on va devoir prolonger l'arrêt des activités non essentielles?
Pour ce qui est de la question de est-ce que les mesures qui donnent sont efficaces, oui, je tiens à vous dire tout de suite, là, on a même mesuré les questions de distanciation au Québec, qui est la province qui l'applique le plus, donc les gens l'appliquent. Ça, c'est une première des choses. Par rapport à l'efficacité, c'est vrai qu'on a beaucoup de cas. Bien, faisons attention, on teste beaucoup, 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 beaucoup. Et ce qui m'importe, moi, c'est quand je regarde le taux d'hospitalisation puis le taux de décès. Moi, je peux vous dire que si on se compare, on n'a pas 15 % d'hospitalisation actuellement. On est en deçà de ça. On a moins de décès. Donc, quelque part, les indicateurs fiables pour les comparaisons, je vous dirais, actuellement, on démontre qu'on a un effet parce que si on serait comme ailleurs, on aurait 15 %. Mais il est trop tôt. Puis, je suis pas en train de dire qu'on est à mi-parcours. Je sais pas où on est si on est à mi-parcours. Quand on sera au pic, espérons-le qu'on va dépasser un peu le mi-parcours pour savoir descendre rapidement. Mais je ne suis pas en mesure de vous le dire actuellement. Par contre, est-ce qu'on aplatit la courbe? Je veux vous dire, je vais attendre de voir la cuisson du temps, ce qu'elle va donner en termes de forme. Donc, moi, je trouve que c'est encourageant. Et si je regarde ce qui est recommandé, je vous dirais, à partir des expériences de partout, là, à part de sceller les portes des personnes pour les empêcher de sortir, comme ça peut être fait dans certains pays, bien, je pense que le Québec est en bonne situation. Il a pris les bonnes décisions, je vous dirais, actuellement au bon moment. Mais la vie étant ce qu'elle est, je ne suis pas astrologue ou je peux faire des scénarios, mais je pense que actuellement, je sens qu'on est en contrôle. Et surtout aussi, c'est qu'on est déjà en plusieurs interventions de délestage, d'intervention pour permettre à notre système de santé de continuer. D'où l'importance de protéger aussi nos ressources humaines, parce que des lits, c'est une chose, du matériel, c'est une chose, des ventilateurs, c'en est une autre. Et les respirateurs, c'en est une autre. Mais il faut encore qu'on ait un système de santé où des gens, à la fois dans les travaux essentiels, à la fois du côté de la police, à la fois ceux qui transportent la nourriture, là, parce que si on n'a pas ça, on va avoir des problèmes, mais il faut les protéger. Donc, pour les protéger, c'est aussi diminuer le risque de les contaminer en ayant un comportement adéquat. Mais je suis fier d'être au Québec. Et on verra l'histoire plus tard. Puis je vais vous dire, il y a beaucoup de questions excessivement pertinentes que vous posez, dont j'aimerais avoir la réponse. Mais je suis obligé de dire, comme scientifique, que je ne le sais pas. Mais actuellement, on est en contrôle.